Peut-être la première chose, c'est sur l'intérêt du thème, puisque dans le contexte de changement climatique et aussi d'érosion de la biodiversité, donc on parle aujourd'hui de l'urgence et l'urgence à agir face à l'érosion, à la sixième extinction de biodiversité, face au changement climatique aussi, où les projections sont quand même très, très pessimistes. Donc une urgence en fait à agir, à transformer nos modes de vie, à modifier notre société. Et c'est dans ce contexte-là en fait que moi, j'ai vu apparaître ce terme de transition. Alors, j'allais dire, d'un point de vue, peut-être que ça peut, on peut se dire, ben, enfin, on s'engage, enfin, il y a une prise de conscience véritablement effective et concrète sur ces enjeux-là. Et en même temps, quand j'ai vu un peu le terme se populariser, faire l'objet aussi de travail scientifique, je me suis demandé, au fond, enfin, qu'est-ce que revêt finalement ce terme-là? Est-ce que c'est un véritable engagement? Et après tout, ça indique bien une perspective et une évolution sur du long terme de la société? Ou est-ce que c'était un euphémisme pour justement pour dire que peut-être que les problèmes auxquels on est confronté ne sont pas si graves là, il suffit d'y aller tranquillement, peut-être aussi faire des changements un peu faibles, un peu à la marge, un peu cosmétiques. Donc, en fait, l'intérêt, voilà, que je trouve à la journée, c'est vraiment d'y voir plus clair sur ceux qui se revendiquent de la transition, à la fois les expériences et les recherches, et d'essayer de savoir si c'est vraiment des signaux faibles qui sont observés, c'est-à-dire des germes de transformation plus profonde, ou au contraire, est-ce que c'est des changements cosmétiques et superficiels, et un peu une réutilisation en fait de ce mot-là par des hommes politiques ou par des acteurs économiques qui veulent en fait pérenniser leur modèle et ne pas s'engager dans des changements radicaux ou d'importance. Donc, je suis content, en fait, c'est un peu ça, de cette journée. L'une de mes attentes par rapport à cette journée, c'est d'essayer d'y voir plus clair, en fait, sur ces changements qui sont nécessaires mais qui peuvent, en fait, n'être que superficiels. Là aussi, on peut prendre peut-être juste un exemple, même par rapport à la crise que l'on est en train de vivre, et la crise par rapport au Covid, à l'épidémie, où, enfin, je ne sais pas là aussi l'expérience que vous en avez, mais même au moment du premier confinement, pour certaines personnes, enfin, dans certaines conversations, on me disait, mais oui, de toute façon, plus rien ne sera comme avant, on va changer de monde. Moi j'avoue que personnellement, les changements ne sont pas si évidents que ça, et même après 7-8 mois de crise, on a bien observé qu'il y a eu une recrudescence, enfin, une augmentation de l'alimentation locale, des achats en vente directe. Donc ça c'est plutôt positif, mais là aussi est-ce que c'est un changement conjoncturel, une adaptation d'actualité, ou est-ce que c'est des habitudes qui vont rester sur du long terme? Donc c'est difficile à voir, et on le verra en fait aussi sur la durée. Et un autre élément aussi qui montre en fait que la fragilité un peu de l'engagement dans un changement. C'est aussi, je trouve, la réponse du gouvernement face à la crise. Le plan qui est mis en place, alors son nom, c'est un plan de relance. Ce n'est pas un plan de transition, ou ce n'est pas un plan de changement. Ça s'appelle plan de relance. Donc, et si vous regardez en fait un peu les mesures qu'il y a, alors là, je ne me rappelle plus le détail, mais il y avait plusieurs volets et il y avait un volet pour la transition, je ne me rappelle plus comment il l'a appelé, mais sur la rénovation du bâtiment, sur les énergies vertes. Mais en même temps, dans ce plan-là, on voit qu'il y a des mesures importantes pour le sauvetage du secteur aérien, pour le sauvetage du secteur automobile, alors même si on parle de voitures électriques, en fait, les gains des voitures électriques ne sont pas si évidents que ça, mais on est encore dans la poursuite d'activités qui sont fortement émettrices de gaz carbonique. Et donc on voit bien en fait toutes les difficultés que l'on a à changer nos comportements et à abandonner des secteurs polluants pour aller vers des nouveaux secteurs, vers des nouveaux modes de production, de consommation qui sont moins polluants. Donc il y a une vraie difficulté à changer de cap et à modifier l'économie de la société, le fonctionnement et nos modes de consommation. Donc tout ça, pour moi, augmente mon intérêt par rapport aux communications qui vont être faites pour essayer de voir en fait les changements en profondeur qui frémissent et voir en fait les évolutions qui se dessinent. Alors, et de ce point de vue-là, je trouve que le programme de la journée est bien équilibré avec les trois axes. Le premier axe est ce qu'on pourrait penser les modèles en fait de la transition, puisque les crises qui s'annoncent en fait, nous obligent à inventer, à innover des nouveaux modes de consommation, des nouveaux modes d'organisation. Donc, ça nous oblige à abandonner les modèles traditionnels qui ont servi à la croissance pour essayer de trouver des nouvelles manières de vivre, des nouvelles manières de se développer et de continuer. Donc la première partie pose bien cette question sur les modèles. Et ensuite, les deux autres axes sont bien articulés à la fois sur les acteurs publics et les acteurs privés, puisque l'une des caractéristiques de cette crise, c'est aussi, on le dit, c'est que ça remet en cause nos modes de vie, notre société de consommation. Donc ça nous renvoie chacun à notre responsabilité individuelle sur ce qu'on consomme, sur comment on se déplace, comment on travaille. Et on détient tous une partie de la solution. Alors, là aussi, c'est ce qu'on pourrait appeler soit les acteurs privés, soit les économiques, mais aussi les ménages, en tant que consommateurs, en tant que aussi citoyens. Donc, on a une partie de la solution, mais en même temps, si c'est indéniable, c'est insuffisant, puisqu'on voit bien que même si on peut adopter des comportements vertueux, on peut modifier nos réseaux de sociabilité, nos manières en fait de travailler aussi. Cela peut paraître peut-être insuffisant. La bonne volonté, les gestes écologiques ne sont pas suffisants, puisque le cadre dans lequel ils vont se développer peut limiter les effets. Et, bon, je peux prendre aussi un exemple. Et, là aussi, par rapport à l'utilisation de la voiture, on peut, même le gouvernement a préconisé l'utilisation des vélos. Il y a des subventions pour la réparation des vélos, pour l'achat des vélos. Mais en fonction de là où vous habitez, vous pouvez être de très bonne volonté, mais si vous êtes dans une ville où les activités sont dispersées, si vous êtes à la campagne, les distances peuvent être importantes. La solution vélo, qui dépend aussi des choix personnels que l'on peut faire, elle peut être irréaliste ou en tout cas peut avoir une portée très limitée. Donc, il y a bien un besoin, en fait, d'accompagnement des choix qui peuvent être faits par des individus ou par des acteurs économiques, par des acteurs politiques pour aussi cadrer ces activités, et puis pour un peu organiser, si je reste toujours sur cet exemple du vélo, pour organiser la distribution des activités dans l'espace et éviter qu'il y ait une concentration ou combiner des modes de transport du multimodal entre transport collectif et transport individuel. Donc là, il y a bien une nécessité et une amplification des mesures par les collectivités locales. Et à l'inverse, les collectivités locales, elles ont aussi ces acteurs publics, hein, qui détiennent la solution, hein, une partie de la solution. Ils ont besoin aussi de la coopération des individus, des citoyens ou des habitants. Là aussi, je peux prendre l'exemple de la crise par les Gilets jaunes, où ce qui avait créé la détonation, c'était une fiscalité, c'était une taxe, donc une taxe verte qui a été donc refusée, qui a déclenché donc la révolte des habitants, puisque ça a alourdissé leur. Et quand on est dépendant des transports ou du chauffage, mais des transports pour aller travailler ou pour le quotidien, mais tout de suite, il y a un impact de cette mesure sur le budget et sur le pouvoir d'achat du ménage. Donc, voilà, cette mesure de fiscalité a été donc rejetée. Est-ce qu'elle a été mal comprise? Est-ce qu'elle a été mal pensée ou mal construite? En tout état de cause, ça a créé un rejet de la mesure et un rejet de cette fiscalité verte. Donc là aussi, on voit bien que à l'inverse, les politiques publiques ont besoin d'une adhésion des habitants, d'une adhésion aussi des acteurs économiques, hein, pour pas qu'ils soient en résistance ou en contournement, pour que ces politiques publiques soient effectives sur le terrain. Donc, pour en revenir au programme de la journée, je trouve que le programme est bien construit, bien équilibré par rapport à cette problématique, et je trouve ça, en fait, encourageant, et ça donne envie donc de suivre l'ensemble de la journée. Alors, juste pour terminer, je ne vais pas être beaucoup plus long. Bon, pour terminer, je voudrais remercier, en fait, et féliciter, en fait, le comité d'organisation pour cette journée. D'une part, pour avoir maintenu l'organisation de la journée dans le contexte que l'on connaît. Bon, c'est pas évident non plus de maintenir ces moments d'échange collectif, hein, du fait du distanciel, puisqu'en plus on est tous, je pense, saturés de visioconférence. Donc, merci d'avoir maintenu cette journée. Merci pour aussi votre grande autonomie. Donc, c'était l'esprit de ces journées qui sont organisées par les doctorants. C'est que les doctorants apprennent aussi un petit peu. Vous apprenez à faire de la recherche dans votre thèse, mais vous apprenez aussi, du coup, d'autres activités de recherche, comme l'organisation de colloques, qui sont des moments aussi de valorisation, des moments où se fait la recherche, hein, de valorisation, d'échange des idées. Donc, l'idée aussi, c'est que, voilà, vous appreniez ce type d'activité. Et de ce point de vue-là, c'est la deuxième année que c'est organisé avec l'Université de Poitiers, avec l'équipe Gravité. C'est toujours, il y a toujours autant d'entrain, je pense, autant de plaisir de votre côté. Alors, cette année, j'ai eu moins l'occasion de m'en rendre compte, puisqu'avec le distanciel, c'est plus difficile à vous côtoyer et à échanger avec vous. Mais je pense qu'il y avait autant de plaisir cette année à le faire. Et une grande autonomie. On a été là, l'essentiel du travail, c'est bien vous qui l'avez fait, trouver la thématique, rédiger le plan, rédiger l'appel à communication, construire le programme. Voilà, on vous a accompagné, mais c'est encore une fois, c'est vraiment vous qui avez fait ce travail, et c'est vraiment votre réussite, quoi. Donc, voilà, pour ça, moi, je suis très satisfait, et déjà, je Bon, c'est pas fini encore, mais je pourrais déjà vous donner des félicitations. Je voulais aussi remercier donc, mes collègues de l'équipe ruralité donc, à Poitiers. J'en ai vu certains d'entre eux. Donc, merci aussi pour, voilà, pour ce partenariat et la confiance qu'ils nous font en nous disant à accepter dans l'organisation de cette journée, puisque c'était une journée qui était faite au début par l'équipe ruralité. Aujourd'hui, elle est faite en commun. Donc, merci pour leur confiance et leur fidélité. Et en dernier lieu, donc, remercier mes collègues de CITER, donc Isabelle aussi pour son accompagnement, Muriel pour tous les efforts, tout le travail de diffusion et de publicité qu'elle fait. J'ai vu qu'elle a encore envoyé un message, elle en a envoyé un, mais il y en avait déjà eu plusieurs. Il y en a eu encore un ce matin, il y a un quart d'heure. Donc merci à Muriel et personne que je n'ai peut-être pas vu, mais qui ont participé au projet et à l'organisation de la journée. Voilà, merci à tous. Moi, je vous souhaite une bonne journée et puis je vais...